Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Victoria, le 107.9, c'est François Macon. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 18e émission de Regard sur le Grand Victoria. Nous sommes ensemble cette semaine pour une demi-heure afin de parler beaucoup, beaucoup de Victoria. Nous allons le voir, l'actualité est relativement dominée par ce qui s'est passé dans la capitale. À commencer par l'annonce du déficit de l'exploitation du budget 2020 de la municipalité de Victoria, qui devrait être plus basse que prévu. Nous verrons cela ensemble. Nous parlerons également de deux études qui ont été réalisées cette semaine par le district régional de la capitale. Une qui recense malheureusement les sans-abri et nous verrons que ce chiffre ne diminue pas. Et puis une seconde sur la corrélation entre le coût, l'accroissement du coût du logement et du transport. Quelles répercussions, quelles conséquences sur les ménages du Grand Victoria? Nous verrons cela ensemble. Nous parlerons également de solutions à cette crise du logement qui ont été partiellement apportées par la maire Lisa Helps, qui a participé la semaine dernière à une conférence sur le droit au logement, une conférence organisée par l'Institut d'urbanisation du Canada. Et puis nous conclurons cette émission avec un petit point d'information sur les élections à venir, les élections partielles à venir à Victoria. Mais tout de suite, je vous propose de commencer avec le titre principal. Le déficit pour la mairie de Victoria devrait être moins important que prévu. Selon un rapport du personnel de la ville de Victoria qui devrait être étudié ce jeudi en conseil municipal, le dernier avant le 30 août, puisque les élus vont prendre des vacances bien méritées, eh bien ce rapport estime que le déficit budgétaire 2020 de Victoria sera au moins un quart inférieur aux estimations, mais pourrait atteindre 17,5 millions de dollars. Je vous rappelle qu'en avril dernier, le personnel avait projeté un déficit pouvant atteindre les 22 millions de dollars, ce qui a conduit le conseil à trouver des coupes dans le budget, impliquant principalement des reports de grands projets d'immobilisation, tels que la rénovation de la piscine Crystal Pool et la construction d'équipements sportifs à Topaz Park. Le personnel recommandait à l'époque que les fonds de réserve d'urgence soient économisés pour 2021 et que les 12 millions de dollars en impôts fonciers qui ont été réaffectés au projet d'immobilisation soient affectés au déficit. Depuis le début de la pandémie, la ville a perdu environ 1,2 million de dollars par mois après la réduction des frais de stationnement votée en avril pour offrir un soutien aux automobilistes de la capitale. Toutefois, depuis que la province est entrée dans la phase 3 de son plan de redémarrage, les revenus du stationnement ont augmenté à hauteur de 950 000 dollars par mois. Et même si le coût du stationnement a été en partie rétabli il y a deux semaines par les conseillers municipaux, l'on devrait cependant assister à une perte de recettes des parkings pour l'année qui devrait se situer entre 8 et 12,8 millions de dollars. La ville devrait également perdre environ 250 000 dollars en raison de la fermeture de la Save on Food Memorial Arena et entre 2,3 et 2,5 millions de dollars supplémentaires en raison de la fermeture du Victoria Conference Center. La fermeture de la Crystal Pool et du centre de remise en forme attenant a également entraîné une perte de revenus pour la ville, mais en raison de la baisse des coûts d'exploitation, il n'y a qu'un impact financier net négligeable pour la ville, souligne le même rapport. Un certain nombre de locataires commerciaux de la ville qui n'étaient pas admissibles au programme fédéral d'aide au loyer travaillent avec la ville sur d'éventuels ajustements de loyer, mais on peut prévoir une perte de revenus estimée à 1,1 million de dollars. Au coût financier de la pandémie s'ajoute le fait que la ville a mis en œuvre des protocoles de nettoyage accrus pour toutes ses installations et des coûts supplémentaires liés aux divers campements qui auraient coûté 850 000 dollars à la municipalité. Le rapport préparé par Susan Thompson présente un certain nombre de stratégies pour atténuer les déficits de revenus attendus et les coûts supplémentaires engendrés par la pandémie qui seront tous examinés par le conseil municipal jeudi. La ville compte également sur le soutien provincial aux transports en commun et aux municipalités récemment annoncées pour réduire le déficit. Le gouvernement fédéral avait toutefois précisé que les aides directes ne pourront servir qu'aux besoins de trésorerie pour les opérations de fonctionnement et non pour le budget d'investissement. Pour rappel, la proposition initiale de budget 2020 de Victoria à l'automne dernier était d'un peu plus de 260 millions de dollars. Plus de 1500 personnes sans abri dans le Grand Victoria. Le district régional de la capitale, en partenariat avec le Community Social Planning Council et la Greater Victoria Coalition to End Homelessness, a publié vendredi les résultats du comptage ponctuel 2020 du Grand Victoria. Il fait suite aux dénombrements biennaux antérieurs effectués en 2016 et 2018 et est entièrement financé par le gouvernement du Canada. Au 11 mars 2020, 1523 personnes étaient sans abri dans la région de la capitale, comparativement à 1525 le 15 mars 2018. En raison des changements de méthodologie d'une année à l'autre, ces deux chiffres ne suggèrent pas nécessairement des tendances dans la région, mais ce chiffre doit être traité comme une sous-estimation, écrit le CRD. Certaines personnes en effet apprécient leur vie privée et préfèrent ne pas participer à l'enquête, tandis que d'autres qui vivent l'itinérance cachée sont difficiles à atteindre et par conséquent ne seraient pas incluses dans ce dénombrement. Les exigences de distance physique et d'isolement dans le cadre des mesures d'urgence de santé publique COVID-19 ont aussi contribué à une augmentation significative du nombre de personnes se réfugiant à l'extérieur dans les parcs et le long des boulevards à la suite du dénombrement et de l'enquête du 11 mars. Un certain nombre de refuges n'ont pas pu rester ouverts au-delà des fermetures prévues le 31 mars et les centres d'accueil ont dû réduire considérablement leur admission nocturne en raison de la nécessité de s'assurer que les personnes avaient la capacité de maintenir une distance physique appropriée. De plus, de nombreuses personnes ont dû quitter les abris informels, comme la pratique du couchsurfing qui consiste à dormir sur le canapé chez des membres de la famille ou des amis en raison du besoin de se distancer physiquement. Les établissements de correction et de santé ont été contraints de renvoyer des personnes sans abri pendant l'urgence car il n'y avait pas de nouvelles options d'hébergement disponibles dans la communauté alors que la pandémie s'aggravait. La fermeture et la réduction significative des services de proximité pendant la pandémie ont également contribué au rassemblement d'un grand nombre de personnes non abritées dans les zones où des services limités restaient disponibles, comme l'avenue Pandora, et dans les espaces publics où les services d'urgence étaient fournis, comme au parc Topaz. Selon Christine Cullam, gestionnaire principale du programme de logement régional au CRD, les résultats du décompte sont essentiels pour guider les politiques du logement, des soutiens sociaux et des services de santé dans ces processus de planification afin de garantir que les ressources sont investies dans les domaines où les besoins sont les plus grands. Le début de la pandémie de COVID-19 a mobilisé le gouvernement de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de BC Housing en partenariat avec des fournisseurs de logements, de services et de soins de santé pour aider les sans-abri à trouver un logement plus permanent. Depuis le mois de mars, 134 personnes ont trouvé un logement dans les hôtels achetés par la BC Housing, tandis que 347 sont actuellement hébergés dans des hôtels achetés par la province à Victoria. Le CRD travaille actuellement en partenariat avec BC Housing et la Société canadienne d'hypothèque et de logement pour mettre en œuvre le programme régional de logement d'abord, le Housing First, un partenariat de 120 millions de dollars qui financera le développement de 400 unités de logement offertes au tarif des refuges de l'aide sociale pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance chronique dans la région. La maire de Victoria, Lisa Helps, s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet lors d'une conférence organisée par l'Institut d'urbanisation du Canada. Nous l'écouterons un peu plus tard dans cette émission. Elle a apporté des solutions, des idées, et il a surtout été question de comment le droit au logement peut être appliqué par les municipalités pendant ces temps de pandémie. Logement toujours, une étude du CRD, une autre, révèle l'escalade du coût du logement, accentuée par celui du transport. Le district régional de la capitale a publié une étude d'envergure qui examine les coûts combinés de logement et de transport comme mesure de l'accessibilité globale des ménages de la région de la capitale au logement. L'accessibilité du logement était auparavant mesurée par le montant que les gens payent pour le logement directement, et cette mesure à elle seule peut ne pas refléter complètement et avec précision le coût total. Il existe notamment des différences marquées dans le parc de logements au sein des régions locales, ce qui peut entraîner un large éventail de coûts de logement dans le même secteur, de recensement ou de municipalité. Les coûts moyens peuvent également être affectés par d'autres facteurs, notamment l'âge et l'état du parc de logement, ou le nombre total de ménages sans hypothèque dans une juridiction donnée. Cela varie par exemple de 25% à Langford contre 54% à North Saanich. L'étude montre clairement que certaines municipalités comme Hawke's Bay ont ajouté un parc de logements très limité au cours des dernières années, où plus de 60% des logements n'ont été construits avant les années 60, tandis que d'autres comme Langford ont augmenté leur parc de logements de manière significative au cours de la même période, avec 18% de ces logements construits entre 2011 et 2016. En dépit des programmes provinciaux de protection des loyers limitant les augmentations annuelles et l'introduction de nouveaux logements locatifs sur le marché, l'étude dévoile une escalade sans précédent du coût de logement. Les principales conclusions de l'étude montrent aussi que les régions où il y a des appartements et des condos plus anciens, avec des locataires qui sont en place depuis plus longtemps, ont des coûts de logement bien inférieurs. Dans la région de la capitale, le parc locatif nouvellement construit a été loué à des taux nettement plus élevés que le parc construit dans les années 60 et 1970. Cela a influencé une tendance générale à la hausse des loyers, dans laquelle les ménages peuvent payer des loyers jusqu'à 40% plus élevés pour des logements dont la taille est 25% inférieure. Par exemple, un logement locatif de deux chambres plus ancien, de 11 000 pieds carrés, peut être loué à hauteur de 11 025 $ par mois, tandis qu'un logement de deux chambres de 850 pieds carrés dans un nouveau développement voisin peut être loué à 1 850 $ par mois. Il est également prouvé que cela conduit à des augmentations de loyers dans les anciens bâtiments où des appartements identiques dans le même immeuble pourraient être loués à des prix très différents en fonction de la date d'occupation initiale. Par exemple, un résident qui commence son bail demain sera tenu de payer les taux de location du marché pour l'année 2020, qui peuvent être de plusieurs centaines de dollars supérieurs à celui que paye son voisin qui a commencé son bail dans les années 1990. En outre, la situation insulaire de la région se prête à une forte demande de propriétés face à la mer et avec vue, même dans les zones où l'accès aux services et aux transports est limité, ce qui peut avoir un impact significatif sur les coûts moyens de certaines zones. Un facteur important à garder à l'esprit est la récente escalade des coûts du logement dans la région, je vous le disais. Cette escalade a créé des circonstances dans lesquelles les ménages du même quartier ou même vivant les uns à côté des autres, peuvent payer des coûts de logement sensiblement différents pour des propriétés très similaires. Les nouveaux arrivants sur le marché du logement dans ces quartiers ou immeubles supportent maintenant des coûts beaucoup plus élevés que leurs voisins pour acheter et assurer le service de remboursement de crédit pour une propriété similaire. Par exemple, le voisin 1 qui a peut-être acheté sa maison ou son lot de copropriété en 1980 pour 135 000 $ et est maintenant libre d'hypothèque. Le voisin 2, quant à lui, a acheté une maison totalement similaire ou un lot en copropriété pour 400 000 $ en 2009, nécessitant une hypothèque de 300 000 $ que le ménage a maintenant remboursé à hauteur de 175 000 $. Et le voisin 3, ayant acheté cette même maison ou ce même lot en copropriété en 2019 pour 800 000 $, nécessite une hypothèque de 600 000 $. Pour résumer, un coût d'accès à la propriété 6 à 10 fois plus cher qu'il y a 40 ans. Par ailleurs, les frais de transport peuvent être une dépense importante du ménage selon l'endroit où l'on habite et si l'on possède un véhicule pour le transport principal ou pas. Dans l'ensemble, l'étude a révélé que les coûts combinés de logement et de transport varient en fonction de l'endroit où les gens vivent dans la région. Les données suggèrent d'ailleurs que le choix du transport pourrait faire économiser de l'argent au ménage. Ainsi, les coûts de transport ont tendance à être plus bas dans les régions où plus d'options de transport sont disponibles et certaines zones en développement, dans les zones périphériques notamment, affichent une plus grande accessibilité au logement en raison de la valeur et de la disponibilité des terres. Nous reviendrons bien sûr en détail sur l'ensemble de cette étude, mais simplement d'abord, je voudrais vous livrer quelques détails sur la méthodologie puisque l'étude intègre les propriétés louées, possédées et hypothéquées. Aux fins de l'estimation, les frais de logement représentent le total mensuel moyen de toutes les dépenses de logement payées par les ménages qui possèdent ou louent leur logement, y compris les versements hypothécaires, le loyer, les taxes foncières, les frais de copropriété, le chauffage, l'eau et l'électricité. Pour en savoir plus sur cette étude, je vous invite à vous rendre sur le site du CRD et vous pourrez la retrouver en première page sur le site crd.bc.ca. Le district régional de la capitale a fait savoir que cette étude constituerait une base de référence qui était nécessaire sur les coûts de logement et de transport et les résultats pourraient être utilisés sous peu pour éclairer les initiatives de planification régionale et locale en matière de développement de logements abordables. Je vous le disais, toujours sur la thématique du logement, jeudi dernier, la maire de Victoria était invitée pour une série de conférences et de projections de films documentaires, des conférences organisées par le Canadian Urban Institute, l'Institut d'urbanisation du Canada, avec pour principale thématique le droit au logement appliqué par les municipalités pour stopper la crise du sans-abri. Lors de cette conférence, la maire Lisa Helps a avancé certaines mesures qu'elle souhaiterait voir mettre en avant rapidement afin d'endiguer la crise du logement dans le Grand Victoria. Mais avant, elle s'est livrée à un rapide état des lieux pour présenter la situation à ses co-conférenciers. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
We're the capital city, we're at the tip of the island and there are a lot of services here. And so when COVID hit, this was a logical place for a lot of people to come. And shelters, you know, it's really shocking, but I guess this is what happens in a health pandemic. Shelters just cut their numbers in half. And I don't know how they decided who would go out, but half the people were just put out on the street, and you know, and hence the encampments that we have. So I think in terms of a right to home, we're having a very challenging situation in Victoria right now. In some ways very surprising, the fever pitch of kind of anti-homeless diatribes, anti-homeless sentiment, not across the community. I'm certainly getting lots of quiet support for the approach we're taking, which is to not dismantle encampments, not further, until there's places for people to go. So our provincial government has shown tremendous leadership. There were about 360 people camped. The province, with support from the city, booked motel rooms, filled out our arena, and got, you know, in a matter of weeks, 360 people inside. But there are still people left outside, and until there are indoor solutions for them, following Dr. Henry, who's our wonderful provincial health officer, she sent guidelines on encampments to all the mayors in the province, and her advice was, until there are safe indoor places, dismantling encampments does more harm from a public health perspective than good. So I think this right to housing, or better yet, right to home, is going to be a really important conversation to shift some of the public sentiment towards, you know, I don't think anybody that's writing us these emails, which I won't repeat because it just kind of re-traumatizes people who are living without homes, I don't think any of them would disagree with the notion of fundamental human rights. So I think the right to home, the right to housing, is a really interesting opportunity to shift the public conversation here in Victoria and across the country.
Durant ce webinaire qui a réuni des élus de Toronto, Kitchener, Edmonton et Yellowknife, la maire de Victoria a rappelé que l'itinérance est un problème national qui nécessite la collaboration des trois niveaux de gouvernement, avant d'affirmer qu'elle avait d'ailleurs écrit au gouvernement fédéral pour appuyer la demande de la ville et de la province d'investir davantage dans le logement pendant la pandémie, même si, selon elle, des politiques publiques seules ne suffiront pas à résoudre cette crise. Elle parle notamment de l'importance de préserver les parcs existants de logements abordables.
There's some interesting research because we're all talking about building new units of housing, and that's awesome and important. There's a guy called Steve Pomeroy, and he's out of Carleton University, and he's done some really interesting research that I think is worth throwing into the conversation. And he found that between 2011 and 2016, the number of private rental units that are affordable just because they're older, affordable to people or households earning $30,000 or less, that housing stock across the country declined by over 320,000 units for all sorts of reasons, and we can talk about that later. In the same period, there were only 15,000 new affordable housing units built across the country. So for every one unit of affordable housing that we're building in our cities, and we obviously have to keep doing that, we're losing 15 units of affordable housing across the country. So the 1 to 15 ratio, we've got to fix that, or we're just going to be behind no matter how many new units we build. And I think Anna mentioned an acquisition strategy. I know, and I watched The Push last night. If there's a way that we can, create community real estate investment trusts rather than these REITs buying up all these buildings, we have to preserve. So I guess my main point is we have to preserve the stock rather than just building new, building new, building new. And I think there is really a room for public sector intervention in the private market. If these buildings are being flipped anyway, I think there's room for the public sector to intervene. I also think, and we've done great work here with the private sector, as UDI is a sponsor, the Urban Development Institute is a sponsor of this event. So I'm not saying that all housing should be public housing, but I am saying if we're losing, if we're building one unit every year, we're losing 15, we're never going to catch up.
Pour conclure son intervention, Madame Helps a rappelé l'importance d'augmenter certains niveaux de services et repris l'adage que chaque crise recèle des opportunités, notamment cette crise du Covid-19 qui pourrait être, selon elle, vous allez l'entendre, être comparée à une guerre et qui pourrait permettre une prise de conscience nationale et l'investissement de fonds relativement importants pour résoudre cette crise, avant de rappeler sa détermination sans faille à agir avant l'hiver afin de pouvoir offrir des logements à toutes ces personnes qui dorment actuellement dans la rue.
The three things that I'm going to be working on, one gap that we identified in our region when we had to move so many people in so quickly is that there are not enough service providers to do the work. And we're going to house more people. So one of the things I'm working on right now is a kind of new service provision with the community to fill some of those gaps. So that's number one, and we'll have more information about that soon. The second thing is I think the Canadian Urban Institute is really onto something with this right to home kind of national mobilizing. And I do think that there's an opportunity coming out of COVID, just like when the war ended. And I agree with Barry, the war's not over yet. But there's a real opportunity to use this right to home as a national call to the federal government to say, all of these people have just been through a war. What are we going to do afterwards to support them? And the same way that we did after 1945, there was a massive investment in housing. So let's use that kind of language, and so that's I'm happy to keep working on that with anyone across the country who wants to. And then I guess third and most importantly in terms of this right to home and quality of life and well-being, not only for the people who are living outside but those who are living inside, I'm going to keep being that annoying mosquito and convening people so that we can get the 200 or 300 people who are living outside right now inside before the winter hits. And that is going to be a big challenge. I'm like, there are lists in my head of where and spaces in your tiny or new tent city, Barrie might be an option. Anyway, so those are the three things I'm going to do because it's really unsustainable and unsafe for people to be living outside in the middle of a global health pandemic.
Et enfin, pour conclure cette émission, un petit mot toujours sur Victoria concernant les élections partielles. On en sait désormais un petit peu plus. Elles devraient se tenir dans le courant du mois de novembre. Cela a été confirmé par la maire Lisa Helps. Il y a actuellement un siège à pourvoir à Victoria suite à la démission de la conseillère Lauren Collins qui a été élue à la Chambre du Parlement. Elle a démissionné de son poste de conseillère municipale en novembre 2019. Les élections devaient originellement se tenir le 4 avril, mais elles ont été annulées et reportées le 18 mars dernier par le ministère des Affaires municipales de la province suite à la pandémie. Mercredi, ce même ministère a publié des nouvelles lignes directrices pour aider les gouvernements locaux à organiser des élections en toute sécurité durant la pandémie. Le personnel de la municipalité devrait donc rédiger un rapport qui sera soumis en septembre à la rentrée, avec des dates potentielles et des instructions sur les conditions et le bon déroulement du vote. Et la mairie devrait donc confirmer rapidement qu'il serait probable que ces élections se tiennent en novembre. Je rappelle qu'il y a actuellement 9 candidats déclarés à l'élection partielle. Stephen Andrew, Jeremy Caradona, Peter G. Forbes, Riga Grodron, Stephanie Ardam, Gordon McKinnon, Rachel Montgomery, Keith Rosenberg et Alexander Smith. Pour l'heure, aucun de ces 9 candidats n'a officiellement relancé sa campagne, mais cela ne serait tardé. Et voilà qui conclut notre 18e rendez-vous de Regard sur le Grand Victoria. C'était François Macon au micro pour vous accompagner, avec toujours un grand plaisir. Quant à moi, je vais vous souhaiter de passer d'excellentes vacances. Je vous retrouve avec grand plaisir dans quelques jours, dans quelques semaines. D'ici là, si vous avez également vous aussi la chance de prendre quelques congés, je vous souhaite d'en profiter pleinement, de vous ressourcer, de vous retrouver donc en pleine forme à la rentrée avec toujours plus d'actualités dans le Grand Victoria. D'ici là, prenez soin de vous et ça sera avec donc un très grand plaisir que je vous retrouverai à la rentrée. À bientôt !